Hop. Savez-vous où sont les livres ?
C'est quelqu'un dans la bibliothèque.
Quartier Livre, Nicolas Julliard, Hélène Ichters.
Oh, ne vous pressez pas, j'ai la passion des livres.
Vous entrez dans la réserve naturelle des bouquins. Quartier Livre.
On dit souvent qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre. Dans le cas d'une femme, c'est parfois plus simple. Pour peu que la femme soit scandaleuse, l'œuvre, elle, passe aux oubliettes. Sauf si cette œuvre est tellement puissante, tellement belle, qu'à force, elle nous revient en pleine face. Et c'est ce qui se produit avec Griselidis Réal. Depuis sa disparition en 2005, la catin révolutionnaire, la porte-parole des parias, trouve chaque jour davantage sa vraie dimension auprès de la critique et du public, celle d'une artiste essentielle de la seconde moitié du XXe siècle. Ce printemps, de multiples parutions nous en donne la preuve. La romancière Nancy Houston s'est démenée pour faire publier l'intégrale de sa poésie, adressant du même coup une lettre admirative à celle qu'elle nomme la reine du réel. Et puis la revue Quarto, revue des archives littéraires suisses, consacre l'entier de son dernier numéro, double numéro, à Griselidis Réal. Deux artisans de cette publication sont avec nous aujourd'hui, chercheurs, enseignants en littérature, Sophie Jossy et Fabien Dubosson. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission et bienvenue aussi à vous, Jeanne Zouyen. Bonjour. Vous êtes historienne d'art et vous avez signé il y a quelques années le catalogue raisonné des peintures et dessins de Griselidis Réal, tout un univers à découvrir. On va en parler tout à l'heure. Lui a lu tout, à peu près tout, Griselidis Réal. Il aura donc des choses à vous dire. C'est notre chroniqueur du jour, Yann Courtiot. Bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Eh bien, pour clore ce casting royal, vous dire encore que Rodolphe Beauchaud a réalisé l'émission, qu'Antoine Weissenbach la diffuse et que Bastien Arnold a préparé la programmation musicale. On est en direct jusqu'à 17h. Bienvenue à vous.
Quartier Livre, Nicolas Julliard.
Elle était une figure militante de Genève. L'écrivaine, artiste et prostituée Griselidis Réal n'a toujours pas de rue à son nom. La proposition de lui en donner une n'a pas passé la rampe cette semaine encore, alors que le Conseil d'État a accepté de rebaptiser 10 nouvelles rues avec des noms de femmes qui ont marqué la ville pour féminiser l'espace public.
À pas de louves, à pas de tigresses et d'oiseaux, nous marcherons sur la lune s'il le faut. Nous gagnerons l'espace qui nous revient, à nous qui sommes le baume sur les blessures et l'eau dans le désert, parfumée, étincelante, offerte et blessée, douce et violente, femmes et magiciennes, princesses de nos sens et du désir des hommes.
Mais Griselidis, tout le monde ne peut pas écrire un livre, ces gens qui portent un masque peut-être dans la rue.
Mais tout le monde pourrait écrire un livre, ou bien vivre une grande passion, un amour, faire un voyage, s'exprimer d'une façon ou d'une autre, hurler, chanter, crier, réciter quelque chose. Tout le monde pourrait le faire. S'il n'y avait pas les masques et les interdictions, une sorte de silence qui vous étouffe.
Voilà, en quelques petites secondes, différentes facettes de Griselidis Réal, un fait d'actualité récente, une citation de son roman « Le noir est une couleur » et puis un extrait d'une interview radio de 1971 tirée de nos archives, juste pour vous faire entendre cette gouaille genevoise et puis cette vision de l'écriture comme un acte de libération à la portée de toutes et tous. Alors à défaut d'arpenter la rue Griselidis Réal, on va arpenter les rayonnages des libraires et on y trouve l'essai de Nancy Houston, Reine du Réel, l'intégrale des poèmes de Réal sous le titre « Chère vive », préfacée par Nancy Houston, et on l'entendra tout à l'heure d'ailleurs. Et puis ce nouveau numéro de la revue Quarto, revue des archives littéraires suisses que vous avez coordonné, Fabien Dubosson. Vous êtes collaborateur scientifique aux archives. Bon, ça fait beaucoup de parutions en même temps ce printemps. C'est un hasard heureux, cette floraison de publications autour de Griselidis Réal?
Oui, alors il y a une part de hasard aussi, hein, les publications n'étaient pas coordonnées en l'occurrence, mais je pense qu'il y a vraiment un hasard heureux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de retour de Griselidis Réal sur le devant d'une forme d'actualité, je pense. Son œuvre nous parle à nouveau après un certain nombre d'années de relatif silence, disons, autour de son œuvre. On redécouvre la pertinence, l'acuité, l'actualité d'une œuvre. Et je pense que c'est un hasard heureux. Ce n'est pas une publication qui a été concertée, disons.
Non, il n'y a pas d'anniversaire particulier.
Il n'y a pas d'anniversaire particulier, mais probablement quelque chose dans l'air, en effet, qui est de l'ordre d'une forme d'actualité de son œuvre qui nous paraît plus actuel que jamais.
Alors, ce qui vous unit tous les trois et ce qui réunit toutes celles et ceux qui, comme Nancy Houston récemment, ont travaillé sur la production de Griselidis Réal, c'est le fonds Griselidis Réal, ses archives déposées à la Bibliothèque nationale de Berne. Alors, on se rend pas forcément compte de ce que ça représente, un fonds d'écrivain, à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, ça, de façon très matérielle, hein, ça se présente sous forme de boîtes, de boîtes d'archives entreposées dans des magasins à température constante, où il fait d'ailleurs assez froid. Oui. Et ces boîtes, des boîtes bleues, eh bien, dans ces boîtes bleues, on trouve en fait des documents tout à fait intéressants, des documents qui, dans le cadre de Griselidis Réal, nous indiquent, nous mettent au jour en fait tout son processus créatif. Dès les tout débuts, on a vraiment les premières ébauches des tout premiers textes dans les années 50, jusqu'aux textes les plus tardifs, les lettres qu'elle écrit à Jean-Luc Hennig dans les années 2000 et qui constitueront son recueil Les Sphinx, publié de manière posthume. Et bien, les archives ont gardé trace de tout cela, de tout ce travail permanent, constant de Griselidis Réal. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Eh bien, on y trouve des manuscrits, on y trouve des tapuscrits, c'est-à-dire les versions dactylographiées des textes. On y trouve les poèmes, on y trouve les manuscrits de la grande œuvre de Griselidis, celle qu'il a fait connaître au tout début des années 70, Le noir est une couleur. Oui. Et on trouve vraiment les toutes premières traces de ce texte dans des cahiers écrits d'ailleurs en allemand.
Et j'aurais une question à ce sujet, comment le fond c'est qu'il crée d'ailleurs, parce qu'on sait par exemple que ses poèmes, lorsqu'elle quitte Genève pour l'Allemagne au début des années 60, elle vend une partie de ses poèmes ou elle les donne. Comment est-ce que tout a été retrouvé et comment le fond s'est-il créé?
Alors le fond a été créé par les héritiers, par les enfants de Griselidis, et c'est donc eux qui nous ont remis l'essentiel du fond. Et puis après, il y a des compléments, des suppléments du fond en fonction des. Par exemple, on a des correspondances qui nous ont été livrées après coup, donc après le dépôt principal, si vous voulez, qui a été constitué par les enfants. Donc on le complète à mesure en sollicitant ou des interlocuteurs qui sont encore vivants et qui ont dans leurs mains des documents divers et variés de Griselidis.
Sophie Jossy, vous l'avez fréquenté aussi abondamment, ce fonds?
Oui, en fait, je pense que pour une chercheuse en littérature, c'est quelque chose toujours d'assez émouvant d'avoir accès comme ça à la matérialité d'une œuvre qui est en train de se faire et en même temps qui est en train de se faire. Au moment où on y accède en archive, elle est faite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rencontre de différentes temporalités dont on ne sait pas toujours bien quoi faire au début quand on se confronte à ces papiers éparses, à cette écriture qui surgit. Et dans le cas de Griselidis Réal, c'est peut-être d'autant plus vrai que là, vous nous avez fait entendre tout à l'heure une archive audio. C'est très émouvant d'entendre sa voix. Et ben, ça fait un peu pareil quand on voit sa grande écriture somptueuse, baroque, avec un rapport, je dirais, très intense à la ponctuation. On compte plus le nombre de points d'exclamation sur une seule page quand on est devant ces textes, devant ces lettres. Et je pense que c'est le rappel de cette matérialité du verbe et du texte et de l'écriture, particulièrement pour une œuvre aussi incarnée que celle de Griselidis Réal, c'est quelque chose d'important dans le parcours de confrontation à une œuvre.
Et c'est très beau, hein, on trouve des exemples d'ailleurs dans ce quarto, de nombreux documents, des manuscrits, des photographies, des dessins qui font de cette publication un véritable album Griselidis Réal. Là aussi pour vous c'était extrêmement important, j'imagine, Jeanne Zouyenne, d'avoir à disposition ces archives, des dessins parfois inachevés, toutes sortes de choses laissées comme ça sur des petits bouts de papier.
Absolument, les dessins ça nous donne vraiment des renseignements très importants sur sa façon de travailler. Et il y a aussi dans les dessins, il y a une grande attention à la brillance des matériaux. Elle mettait du vernis, de la laque, donc c'est vraiment très important de les voir en vrai, mais aussi évidemment toute la correspondance qui nous donne des repères chronologiques fabuleux en fait. Et d'avoir aussi des objets, il y a notamment des objets qui lui ont appartenu ou des choses pour vraiment situer les choses les unes par rapport aux autres.
Alors, petit rappel biographique, Griselidis Réal naît en 1929 à Lausanne, elle meurt d'un cancer à l'âge de 75 ans à Genève, et entre les deux, c'est une vie extrêmement riche de voyages, de rencontres, de souffrances, bien sûr, entre la misère, une vie de famille chaotique, la prostitution, et puis une vie militante qui s'affirme dans la seconde partie de sa vie, et au milieu de tout cela, beaucoup d'écriture. littérature, de la poésie, un roman, des lettres, des créations visuelles également, dessins, pochoirs, peintures, on en parlera. Une grande partie de sa production ne sera découverte, ou en tout cas mise à disposition du public qu'après sa mort. Alors comment les unes et les autres êtes-vous entrés en contact avec Griselidis Réal? Quelle a été votre première rencontre avec elle ou avec son œuvre, Sophie Jossy?
Alors moi, c'est une rencontre en fait aussi un peu baroque. En fait, c'était il y a assez longtemps. En 2003, j'étais une toute jeune étudiante en littérature et j'avais été à une conférence organisée au centre du RENMAT qui réunissait des invités très prestigieux, Catherine Millet, Alain Robbe-Grillet, Catherine Robbe-Grillet, Paul Nison. Ça tournait autour, j'avoue que je me souviens plus exactement du sujet, mais en gros, c'était la sexualité et la littérature. Et comme toujours dans ces événements, c'était malgré le sujet un peu feutré, peut-être par moments, franchement, un peu ennuyeux. Et puis tout à la fin, s'est dressé dans le public cette figure comme ça, tout en noir, qui a commencé à interpeller les intervenants. C'était Griselidis Réal. Je ne savais pas qui c'était, mais je me souviens qu'elle m'a énormément frappée. Pas tellement par ce qu'elle disait, mais par la manière dont elle le disait. Elle avait cette espèce de force de parole vive qu'on retrouve ensuite dans son écriture, qui est vraiment une écriture de l'affect et de la vie brute. Et c'est ça que j'ai eu envie ensuite de trouver dans son œuvre, alors que je ne la connaissais pas du tout.
Vous, Fabien Dubosson, vous l'avez rencontrée?
Alors non, malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Ouais. Mais la première fois que j'en ai entendu parler, c'était lors d'une émission, comme spectateur bien sûr, c'était le bateau-livre, sauf erreur, de Frédéric Fernet. Donc c'était aussi dans les années 2003-2004, je pense. Et c'est ce qui m'avait beaucoup frappé aussi, bien sûr, c'était le charisme de cet invité qui détonnait beaucoup avec le reste des invités de l'émission en question.
Et vous, Jeanne Zouyen?
Pour moi, c'était par les dessins. En 2013, oui. Il y avait une exposition au Centre d'art contemporain qui montrait des dessins d'elle. Et ensuite, ça a été la littérature. Et ensuite, vraiment son travail militant. Donc j'ai l'impression d'avoir fait presque un chemin inverse, c'est-à-dire peintre, écrivain, travailleuse du sexe, bien sûr, et ensuite militante et documentaliste.
Je vous pose la question, Yann Courtiot, vous?
Alors, il se trouve que j'étais voisin du cimetière des Rois, que je fréquente beaucoup encore maintenant, peut-être dû à mon passé gothique quand j'étais adolescent.
Où Griselidis est enterré.
Voilà, Griselidis a été enterré après moult remous, notamment à cause de la stèle. On en parlera peut-être plus tard. Mmh. Et c'est vrai qu'ensuite, je me suis intéressé à ses littératures, étant donné que j'étais à la fois fan de Sade, de Jean Genet. Et naturellement, je pouvais trouver des choses assez sulfureuses chez elle aussi. Et j'y ai trouvé plus que ça, en fait, aussi un appel à la liberté et un amour jusqu'au boutiste.
Et vous êtes aussi, vous ne l'avez pas dit, mais vous êtes un grand mélomane et vous m'avez soufflé en préparant cette émission l'idée de faire écouter une chanson d'Anita Lane. Alors la voici, Home is where the hatred is. So that the world can watch you die. Anita Lynn dans une reprise d'un titre de Jill Scott Heron, Home is where the hatred is. Jill Scott Heron, musicien révolutionnaire s'il en est. Vous écoutez Quartier Libre sur RTS La Première. On parle aujourd'hui de Griselidis Réal et de son travail artistique en particulier avec nos invités et avec vous Yann Courtiot. Vous êtes libraire, chroniqueur, mélomane, grand lecteur et vous vous interrogez sur la double vie des écrivains, question cruciale dans le cas de Griselidis Réal dont les productions artistiques ont été arrachées de haute lutte à un quotidien professionnel pour le moins difficile et épuisant. C'est le moment de votre carte blanche.
Quartier libre, quartier chaud.
Il faut être libre de ne pas écrire, libre de ne pas publier. Le problème, ce n'est pas le métier. C'est quand le métier ne permet plus d'écrire, parce qu'il est trop dévitalisant, abrutissant, éreintant, chronophage, ou qu'il écrase quelque chose de la dignité. Même si l'écriture peut sauver du gouffre et qu'elle s'accommode de toute noirceur, même si elle ne recule devant rien, il me semble qu'elle croît avec les ressources intérieures. Écrire réclame que soit épargné quelque chose de très profond, qui est cette nécessité d'affranchissement vis-à-vis de toute attente, propre ou extérieure. J'ai recueilli ces propos auprès de Pierre Inpoget, qui a gentiment répondu à mes questions. Elle est l'auteur de « Warda s'en va, carnet du Caire », publié l'année passée aux éditions de La Baconnière. Généralement, on a de l'écrivain une image ou les images relativement précises, même convenues. L'écrivain, c'est un homme ou une femme qui écrit dans les cafés ou chez lui, assis devant son bureau, entouré de belles bibliothèques, avec peut-être même des livres qui traînent nonchalamment sur le sol. L'écrivain est reclus, c'est un alchimiste du verbe, un architecte de l'imaginaire. Il est tout entier tourné vers son œuvre, il vit de rimes et d'espérance, pour reprendre les mots de Voltaire. L'écrivain, c'est Flaubert, l'homme plume par excellence. Il est célibataire, il n'a pas d'enfant, et surtout il est rentier. C'est que l'écriture ne garantit que rarement l'autonomie financière. Mais les temps ont changé, heureusement, et on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui, jamais autant publié, et fort heureusement on lit encore beaucoup. Les temps ont changé, certes, mais l'écrivain d'aujourd'hui partage avec celui d'hier le souci de gagner sa vie. Certaines et certains sont plaignes, vivent leur premier métier comme un handicap à la reconnaissance, un manche-temps qui les empêcherait de produire plus de textes, d'autres font avec. Il y en a même qui apprécient énormément cette double fonction. On oublie par exemple que pour survivre, économiquement parlant, Colette avait ouvert un institut de beauté et qu'elle a souvent prêté son nom, son image et surtout sa plume à des marques et des entreprises prestigieuses comme Ford, Perrier, Hermès, les vins Nicolas et, tenez-vous bien, les cigarettes Lucky Strike. L'écrivain Pierre Raufast, à qui l'on doit l'amusant livre « La fractale des raviolis », est lui informaticien. Il estime qu'une passion, ici l'écriture de romans, ne doit pas nécessairement se transformer en métier pour devenir pleinement épanouissante. Quant au manque de temps, Pierre Raufast ajoute encore qu'il ne faut pas plus de temps pour écrire un roman que pour regarder inlassablement des tonnes de séries sur Netflix. Écrivaine suisse, Mélanie Chapuis a, elle, plusieurs casquettes, voire même plusieurs sombreros. Elle est journaliste, indépendante, elle est autrice de textes littéraires qui englobent plusieurs genres, dont l'écriture théâtrale, et elle est aussi mère de famille qui, faut-il le rappeler, est un métier à plein temps. L'idée de tout lâcher pour ne s'occuper que de son projet littéraire reste bien sûr illusoire, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce que la vie nourrit son écriture, et quand je parle de la vie, j'y incorpore ce qu'on appelle le premier métier. Ainsi, travailler comme journaliste, chroniqueuse, le fait de rencontrer des personnes dont elle fait le portrait, de plonger dans l'histoire de la Suisse pour la presse spécialisée, tout cela garde Mélanie Chapuis en état d'éveil pour l'écriture. Elle confie encore que ne faire qu'écrire, c'est limiter ses inspirations et son imagination. Car abandonner son premier métier ne reviendrait-il pas à prendre le risque de dépendre du bon vouloir de son éditeur, de la presse, de son public, et si possible un public nombreux à qui il s'agit de plaire à tout prix ? Mélanie Richaud, qui vient de faire paraître le joli petit livre « Mouche » aux éditions Slatkin, souligne ce besoin d'indépendance. Je la cite « Mon métier, d'ergothérapeute, garantit mon indépendance dans l'écriture. Et oui, il est bon de ne pas dépendre des attentes du public, d'un éditeur ou d'une institution. » Fin de la citation. Cependant, rassurez-vous, si votre nom figure un jour dans un futur dictionnaire littéraire, on ne se souviendra de vous, que comme écrivaine ou auteur. On garde plus généralement le souvenir de Philippe Soupeau comme écrivain, poète et fondateur de la revue surréaliste aux côtés d'André Breton et d'Aragon, beaucoup plus rarement pour avoir été détaché auprès du commissariat des essences et pétroles ou affecté au transport de rails et poutrelles d'une entreprise sidérurgique. Et comme il faut toujours une exception pour confirmer une règle, ce n'est pas le cas de Griselidis Réal, présentée à la fois comme prostituée et écrivaine, poétesse, peintre, féministe et parfois même catin révolutionnaire. Tant il est vrai que son œuvre littéraire s'est nourrie de son expérience professionnelle et de sa vie intime.
Chrysélidis fut toute son œuvre et c'est assez rare pour être souligné.
Quartier Livre.
Merci Yann Courtiot. La vie et l'œuvre se confondraient donc dans le parcours de Chrysélidis Réal. Vous êtes d'accord avec ça, les unes et les autres? Difficile de ne pas l'admettre, Jeanne Zouyenne.
Oui, absolument. Je pense que c'est impossible. Enfin, sa vie, c'est son œuvre tout entière. J'ai fait une liste de professions, mais c'est de manière évidemment complètement, disons, c'est un peu superficiel de séparer les choses comme ça parce qu'elle a fait tout en même temps. Mmh. Je dirais quand même qu'elle a vraiment essayé pendant longtemps de vivre de sa production artistique. Oui. On le voit dans les lettres. C'était vraiment une volonté, notamment de ses dessins, d'essayer de les vendre à plusieurs reprises. Et on en reparlera sans doute, mais il y a vraiment quelque chose qui bascule à partir du moment où elle se lance à corps perdu dans la révolution à partir de 75 et ensuite du moment où elle reprend le travail en 77.
Oui, alors parlons-en précisément tout de suite. Vous avez signé ce catalogue raisonné que j'ai là sous les yeux. Très beau livre, Les créations visuelles de Chrysélidis Réal, paru aux éditions Humus en 2016. C'est vrai que c'est assez particulier parce qu'on se rend compte en vous lisant que cette facette de sa créativité se déploie à des moments précis de sa vie et plus du tout alors après 1975, soit au moment où elle revient à la prostitution et consacre tout son temps à l'activité militante. Donc ça appartient vraiment à la première moitié de sa vie.
Oui et non, dans le sens que c'est particulier, mais à la fois ce n'est pas incohérent avec le reste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un essai d'en vivre pleinement. Elle fait des expositions avec son amie Suzy Pillet notamment. Mais ensuite, ça fait toujours partie de sa vie, c'est juste que le discours sur ça change. Donc elle arrête de peindre, ça en effet. Mais elle va aussi vraiment se décrire, par exemple, peinture Luron, ou dire que voilà, elle faisait qu'elle était un casse-tête pour ses professeurs, où elle va vraiment se placer dans une figure extrêmement originale, notamment envers sa production. Et c'est quelque chose qui est une stratégie de militance aussi, en fait, de créer ce personnage original, libre, ça fait vraiment partie de sa lutte.
Bon, faut dire qu'elle n'a pas eu une formation tout à fait classique d'artiste. Elle n'a pas été aux Beaux-Arts, elle a fait une formation d'art décoratif.
Aux Arts et Métiers de Zurich, hein, donc c'est quand même 4 ans de formation où elle a eu des cours de peinture, donc elle était vraiment décoratrice. Et au début de sa vie, elle a commencé à faire des foulards en soie et ensuite elle a développé la technique de la peinture et du stylo à billes lorsqu'elle était en prison, puisque c'était le seul matériel qu'elle avait à disposition. Et c'est vraiment quelque chose qu'elle a énormément développé jusqu'à faire des compositions totalement fascinantes de motifs foisonnants et aux couleurs extrêmement vives.
Et puis elle n'est pas non plus rattachable à des courants de cette deuxième moitié du XXe siècle. En gros, elle a vraiment un style. Dites-moi.
Alors évidemment, elle aime se dire son modèle, hein, ça fait aussi partie de ce personnage dont je vous parlais, mais on voit l'influence de ses amis artistes, notamment Jacqueline Fromenteau, qu'elle cite d'ailleurs comme une influence. Oui. Malheureusement, il y a très peu d'écrits sur sa vie, quelques lettres à Henri Novera, le peintre notamment, mais sinon, voilà, les seules questions qu'on lui pose sur son art datent de 96, et du coup, elle n'évoque pas ses sources, mais on voit qu'elle a été traversée par les courants du XXe siècle, notamment les avant-gardes, le cubisme, enfin voilà, le surréalisme aussi.
C'est une production assez peu abondante, je crois qu'il y a moins d'une centaine de pièces que vous analysez, mais une production faite avec une immense minutie, un grand soin du détail, et presque toujours avec des personnages.
Oui, absolument, c'est une œuvre presque entièrement figurative. Oui. Beaucoup de personnages fantastiques, des créatures très empreintes à la mythologie et aussi à tout l'imaginaire chrétien. Il y a des madones, des méduses, des anges, des démons. Et presque, ouais, toujours des personnages ou énormément d'animaux également.
Et très coloré aussi, à part ses œuvres au stylo à billes où évidemment le bleu domine parce qu'elle n'avait que ça. Mais sinon, on sent des influences, alors vous corrigerez si je me trompe, mais bon, peut-être de Picasso, des influences africaines comme Picasso, des influences d'Amérique du Sud aussi, cette peinture du Mexique par exemple.
Tout à fait, alors il y a vraiment une projection de l'exotisme dans son travail en général. Je pense que Picasso, vous tombez tout à fait juste, notamment il y a aussi beaucoup de taureaux dans son œuvre. Oui. Et c'est un artiste qu'elle cite, mais notamment plutôt pour des ragots dans ses lettres, savoir s'il est toujours avec François Zolto ou non. Et voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'est l'imaginaire oriental, c'est vraiment très important pour elle. Elle dit que d'ailleurs, honnêtement, qu'elle est absolument fascinée par l'Orient et elle va emprunter beaucoup, beaucoup de vocabulaire et beaucoup de motifs de manière assez large.
On parlait de cette question entre la vie et l'œuvre. Le premier dessin qu'on voit d'elle à 15 ans, c'est un ange de la justice. C'est assez... assez frappant, non?
Tout à fait.
Pour quelqu'un qui se battra ensuite de façon très forte pour la justice.
C'est en 1944, elle a alors 15 ans et elle est au sanatorium alésien. Et l'ange va vraiment continuer à traverser sa production. Et l'espoir, la liberté, la justice sont vraiment des thèmes très très importants pour elle en prison et plus tard aussi, oui.
Et est-ce que vous voyez des liens, des points de passage justement entre son activité littéraire, peut-être au niveau des thèmes aussi, et son activité visuelle, ou est-ce que ce sont deux univers comme ça qui se...
Oh, non, je pense qu'il y a beaucoup de points de passage, notamment il y a un goût pour le texte, pour les titres qui sont toujours vraiment décorés, il y a un goût pour la mythologie et tous les sous-textes évidemment, et puis évidemment tout le bestiaire, enfin tout ce qu'elle, tout son iconographie est aussi utilisée dans les lettres, en fait c'est les mêmes animaux, les mêmes motifs, les serpents évidemment, les étoiles, les astres en général, ce sont les mêmes motifs qu'elle invoque.
Alors vous l'avez dit, Jeanne Zouyen, Griselidis Réal avait cette ambition de vivre de sa production, notamment ses foulards qu'elle produisait. Alors ça c'était évidemment difficile, impossible par le champ des arts visuels. Elle avait aussi cette ambition dans le champ littéraire, parce que ce qui devient son unique roman, Le Noir est une couleur, c'est un projet dans lequel elle plaçait énormément d'espoir, y compris celui de l'indépendance financière. Fabien Dubosson.
Oui, oui, tout à fait. Chez elle, c'est un projet qui devait lui permettre de sortir de la prostitution et d'entamer une vie sans nécessité extérieure, enfin lui assurer une forme d'indépendance. Ça n'a pas été le cas. Le roman ne sera pas un grand succès. Ça sera même, on peut même parler d'échec, je pense, oui. D'échec éditorial. En Suisse romande, c'est un peu différent. Peut-être la situation est un peu différente. Elle est déjà un peu connue par le biais notamment de Bertil Galland, de ses soutiens aussi, hein, chez C, Chapat, surtout Chapat qui a un rôle majeur. Elle n'avait pas reçu le prix Georges Nicolle justement, mais elle avait participé au prix Georges Nicolle. Elle avait été publiée dans Écriture. Elle était apparue à plusieurs reprises à la télévision. Donc tout cela avait
Elle avait bénéficié d'une bourse aussi pour Helvetia pour l'écriture de ce texte. Ouais.
Donc toutes ces choses avaient permis d'une certaine manière de lui donner une réputation littéraire en Suisse romande, ce qui n'est pas du tout le cas en France, lorsqu'elle est publiée par Ballant, qui est un éditeur, non pas marginal, mais qui est un éditeur qui n'a pas pignon sur rue comme Le Seuil ou comme Grasset ou comme d'autres grands éditeurs qu'elle avait avec Bertil Galland approché à ce moment-là. Et donc le roman sera malheureusement un échec et va la détourner pour un moment de la littérature et de l'espoir de percer, disons, oui. dans le champ littéraire.
Mais pas de l'écriture, hein, je crois.
Mais pas d'écriture, ouais, exactement. Mais pas d'écriture. Oui. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est on a parlé tout à l'heure d'écriture brute, de rapport vie écriture. Chez elle, le dilemme se pose de cette façon-là. C'est comment écrire cette vie, justement, comment faire de sa propre vie une écriture. Est-ce qu'on peut parler de sa vie sans artifice? Est-ce que l'écriture n'est pas en soi une forme d'artifice? Et on le voit beaucoup dans ses lettres, dans ses échanges avec Chapat, avec Chesset, avec d'autres, que c'est une question qui est vraiment au cœur de sa démarche créatrice en littérature. Comment est-ce que la spontanéité suffit, ou bien est-ce qu'il faut un métier, est-ce qu'il faut apprendre un métier?
Alors justement, ce métier, vous en parlez, Fabien Dubosson, vous avez coordonné ce numéro de la revue Quarto, revue des archives littéraires suisses consacrée, je le rappelle, à Griselidis Réal. Vous signez la préface et puis un article dans lequel vous examinez son rapport au métier d'écrivain, sa conception musicale du style. Et puis elle avait un discours très élaboré sur sa pratique littéraire, sur ses ambitions, ce que vous désignez comme la valeur performative de l'écriture. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ?
Oui, je pense que chez elle, l'écriture est, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est indissociable de l'idée que elle est en lien direct avec l'existence. Écrire, c'est toujours écrire déjà pour quelqu'un. Je crois que c'est important. On y reviendra peut-être tout à l'heure pour la correspondance. C'est important de la correspondance. Je le lance déjà, mais il y a cette idée qu'on écrit pour quelqu'un. Et dans L'or est une couleur, c'est ça aussi. Elle écrit pour elle-même déjà. Il s'agit de se débarrasser aussi d'un poids, d'assurer aussi une forme de retour sur soi qui lui permet de s'émanciper aussi d'un parcours qui était d'abord marqué par une forme d'aliénation. Ses enfants, elle n'a pas pu avoir la garde de ses enfants pendant longtemps. Enfin voilà, tous ces éléments-là, il faut que par l'écriture, elle puisse non pas se venger, je crois que le terme est peut-être un peu fort, elle l'utilise des fois dans ses lettres, mais en tout cas prendre une revanche sur l'existence par l'écriture.
Oui, se la réapproprier, et vous dites écrire sa vie, c'est la revivre et peut-être même la revivre plus intensément.
Oui, tout à fait. Oui, et elle le dit aussi. Elle dit notamment à Jacques Chesset dans des lettres à Chesset que au moment où elle l'écrit, tout ce qu'elle évoque de manière dans une démarche mais sur autobiographique. Hein, il s'agit d'un ressouvenir de ces événements très durs qu'elle a vécu en Allemagne, l'entrée en prostitution, l'incarcération, et tout ça ressurgit au moment de l'écrire. Hein, mais elle le dit vraiment de façon quasiment spectrale. Hein, le passé ressurgit tel quel, comme un revenant, et avec ses peurs, avec ses angoisses, avec tout son lest d'émotions parfois insoutenables.
Fabien Dubesson, vous parlez aussi dans votre préface du plaisir paradoxal qu'on a à lire Griselidis Réal, parce qu'on jubile à la découverte de son écriture tellement puissante, tellement poétique et flamboyante, et puis en même temps on frissonne en découvrant le contenu très autobiographique, très dur qu'elle nous livre.
Oui, et je pense que c'est dans ce paradoxe-là que réside une partie aussi de la jubilation, c'est que, si je peux utiliser le terme, c'est une œuvre qui arrive, je pense, à déjouer le drame ou le mélodrame, disons. Elle est, on évoquait tout à l'heure hors micro l'humour aussi de Griselidis. Je pense que il y a une façon, alors bien sûr, il y a l'œuvre est parfois tragique, elle est passée sous le signe de la mort, dans les sphinx, où l'oreille de couleur est rarement très très joyeuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et pour autant, il y a une forme une capacité de résistance par l'écriture elle-même. Il y a un côté célébratif aussi, permanent chez elle. Il s'agit de célébrer l'existence, célébrer la vie, célébrer les corps.
Célébrer les corps et transformer le rire en larmes ou vice-versa, c'est un peu le jeu de cette chanson de Wendy Renee, du rire aux larmes. After laughter comes tears. After Laughter Comes Tears, du rire aux larmes, un classique de la soul américaine de 1954, Wendy Renee. Griselidis Réal aurait pu l'écouter. On trouve des disques aussi dans le fond des archives littéraires suisses, Fabien Dubesson, du jazz.
En effet, oui, on a une collection de vinyles assez impressionnante de Griselidis qui couvre à peu près toutes les musiques, ce qu'on appellerait aujourd'hui les musiques du monde.
Oui.
Beaucoup de musique tzigane, gitane, rome, enfin, selon les différentes appellations, mais là aussi, une grande diversité aussi de jazz, bebop, disons qu'il y a une grande diversité et du classique aussi, c'est ça qui est assez surprenant, il y a aussi pas mal de classiques, ouais.
Ouais, alors si j'ose dire, en effet, elle écoutait aussi du tango et puis beaucoup de blues en fait, et elle est une richesse musicale assez exceptionnelle, mais de nouveau toujours dans l'exotisme.
Et Legge Psyking, qui était le nom de ses chiens.
Ouais. D'ailleurs, elle écoutait beaucoup la radio. Enfin, quand elle écrit, elle dit tout le temps qu'elle est en train d'écouter France Musique. Elle se met dans des colères folles quand une émission qu'elle aimait prend fin. Elle est à deux doigts d'écrire à la radio pour protester. Enfin, il y a un rapport aux voix, à la musique qui passe par la radio très, très important chez elle.
Oui, on a beaucoup ici à la radio suisse, beaucoup d'archives aussi de Grisélie d'Israël, même parfois dans des mises en scène assez étonnantes. Alors on va faire un petit détour par la poésie de Grisélie d'Israël. Je voudrais vous proposer, alors bon, ça c'est un petit rituel dans cette émission, la question d'un invité de la semaine dernière qui concerne la poésie, c'est le dessinateur Jonas De Clercq qui s'adresse à vous, écoutez.
Prostitution et poésie, est-ce que la prostitution fait partie intégrante de son art poétique, et est-ce que c'est aussi une manière de militer, peut-être?
Voilà cette question, qui veut répondre?
Je pense que, enfin, je vais commencer, mais peut-être que mes collègues ici pourront compléter. Je crois que d'une manière générale, chez Griselidis, on ne peut rien désarticuler. C'est-à-dire que la poésie, l'écriture, la vie, la prostitution, le militantisme, peut-être l'engagement dans tout ce qu'elle fait, c'est quelque chose qui est entretissé. Et c'est vrai que si on oublie un de ces pans-là, c'est tout l'édifice quasiment qui s'effondre. Donc oui, disons que poésie et prostitution, d'ailleurs elle disait la prostitution, il faut y recourir comme à un art, il faut la pratiquer, ouais, comme un art, une science et un humanisme. Donc c'est quand même un sacré programme, et on voit bien que si on croit à ce programme là ben évidemment qu'on ne peut pas, on peut pas briser ou couper des liens qui en fait sont naturels chez elle, entre ses différentes activités.
Même si la poésie n'est peut-être pas le véhicule privilégié de son militantisme.
Non, alors je pense, bon, c'est vrai que moi je me suis principalement intéressée à la correspondance de Grisel d'Israël. Je crois qu'on doit y revenir tout à l'heure, mais je peux déjà en dire un mot. Oui. C'est vrai que la correspondance, en tout cas telle qu'elle est publiée, puisqu'on a trois volumes de correspondance publiés, deux volumes de sa correspondance avec Jean-Luc Hennig, La passe imaginaire et Les sphinx, et puis un volume de lettres choisies, Mémoire de l'inachevé. Surtout pour les deux volumes avec, enfin, pour Jean-Luc Hennig, c'est principalement le dernier tiers de sa vie, où justement son activité de militante est probablement à son comble, puisque elle rejoint la lutte des prostituées françaises, oui, en 75 dans la chapelle Saint-Bernard, qui est occupée à ce moment-là par les prostituées françaises. Et à partir de là, on voit bien dans la correspondance que elle accompagne ce geste militant, cette vie militante, ces engagements d'un discours, même si j'aime pas trop le terme, disons d'une parole qui s'adresse comme ça à des destinataires privilégiés. Mais on pourra y revenir tout à l'heure.
Oui, alors on y reviendra. Je voudrais qu'on écoute une lecture de son tout premier poème qui ouvre le recueil « Chère vive » paru ce printemps, poème lu par Hélène Ichters, et vous entendrez ensuite la réaction de celle qui signe la préface de ce recueil, Nancy Houston. Et ce qui est très frappant, c'est que dès l'entrée, cette entrée en écriture de Grisélie d'Israël, eh bien, elle se fait par un poème qui s'adresse aux femmes et qui décrit tous les âges de la vie d'une femme. Écoutez.
Le cycle de la vie. Jouez, enfants, dans la lumière, dit la vie au rire argentin. Ne soyez soucieux ni austères, mais ivres d'espoir et de joie, comme fleurs écloses au matin. Chantez, jeune femme aux yeux clairs, l'amour se lève à l'ombre du cœur. Laissez-le éclairer votre voix, laissez s'envoler la douleur, ne goûtez à la coupe amère. Laissez couler, femme mûrie, vos larmes après la haine. Piétinez vos âpres souffrances. Espérez, vous redit la vie. Enterrez vos rêves et vos peines. Éteignez, vieille, de l'existence et du refus le pâle flambeau. Du cœur, fermez la fenêtre. Pensez à ce qui fut beau et bénissez ce qui va l'être. Granvaux, 15 avril 1942.
C'est vrai, c'est frappant. qu'elle pense tout de suite à ça. Son père est mort quelques années plus tôt, quand elle n'avait pas tout à fait 9 ans. Et là, c'est à 13 ans et demi qu'elle écrit ce poème sur les phases de la vie d'une femme. Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre allégories, de pièces de théâtre. On a vu les âges de la vie d'homme et la vie d'une femme est autrement scandée. Et cette petite fille, à l'adolescence, pressent ça, elle voit ça. Ce qui est frappant, c'est que non seulement elle le dit, mais elle ne le dit pas d'une façon édulcorée ou mièvre. Au contraire, toutes ces phases, et plus on avance, plus ça devient négatif, oui. Plus ça devient douloureux, plus ça devient autour des souffrances propres à chaque âge. Le paradoxe étant que dans sa propre vie, Griselidis est allée en sens contraire, que plus elle vieillissait, plus elle était capable de vivre de la joie et oui. Que ces dernières années, sous l'impact de la maladie grave, elle est devenue de plus en plus, je dirais pas hédoniste, mais presque épicurienne dans la capacité de goûter et de dire la beauté de la vie. Et c'est vraiment exceptionnel, les derniers poèmes qui sont... je crois que c'est presque une centaine les derniers, en tout cas plusieurs dizaines, qui ont été publiés la plupart en Suisse, simplement dans un recueil de Françoise Courvoisier qui s'appelait « À feu et à sang oui. », mais qui maintenant sont réunis. Et je trouve qu'ils sont très heureux dans cette collection d'Antoine Caro chez Segers. C'est une belle maison pour elle.
Hey, c'est Cartier Livre.
Après la lecture de ce poème, premier poème de Griselidis Réal, Le cycle de la vie, écrit à 13 ans, les propos de Nancy Houston qui a œuvré à l'édition de ses poésies complètes, c'est un extrait d'un entretien qu'elle m'a accordé. L'intégrale de cette conversation se trouve sur RTS Culture ou dans le podcast de Quertz, la newsletter livre de la RTS. Une réaction peut-être sur ce qu'elle dit de l'évolution de l'écriture et de la vie de Griselidis Réal vers le beau, vers l'hédonisme. Vous êtes d'accord avec ça?
Moi, j'ai l'impression que c'est aussi une constante. Hein, alors, peut-être en effet, ce qui semble peut-être paradoxal, c'est que à l'approche de la mort, cet hédonisme ne disparaît pas. Mmh. Je pense que c'est plutôt ça qui est frappant dans ces dernières lettres, c'est que cette volonté vitale n'est pas émoussée par l'approche de la mort, voyez, par la maladie grave qui. Mais je pense que c'est quand même une constante chez Griselidis. Je parlais tout à l'heure de célébration de la vie. Il y a chez elle une propension aussi au lyrisme hein, qui est permanent. Et je pense qu'on pourrait en trouver des traces dès les premières lettres à Chapa dans les années 50 et tout au long de sa vie.
Et dans cette interview, Nancy Houston me confiait que ce qu'elle trouvait de plus beau, de plus abouti chez Griselidis Réal, c'était justement sa correspondance. Et c'est aussi votre avis, j'imagine, Sophie Jossy. Et vous, dans votre article de la revue Quarto, vous êtes penchée précisément sur les lettres de Griselidis. Et vous soulignez qu'il y a cette question toujours, et en particulier peut-être avec Griselidis Réal, cette question de l'impudeur à se pencher sur des correspondances privées qui sont désormais publiées.
Oui, alors en fait peut-être pour revenir une seconde sur le volume Chair vive, d'ailleurs on peut peut-être juste rappeler que Chair vive était le premier titre envisagé pour oui. Le noir est une couleur, donc je trouve que c'est une très belle idée d'avoir repris ce titre pour sa poésie complète chez Segers. Moi ce qui m'a frappé quand j'ai découvert le volume, évidemment j'avais lu certains poèmes de Griselidis, mais c'est de voir à quel point beaucoup de ses poèmes sont dédicacés à certaines personnes et donc sont déjà pensés ou sont pensés tout au long de sa vie comme des textes adressés. Et moi, c'est cette facette-là de l'œuvre de Griselidis Réal qui m'a toujours beaucoup fascinée et qui, évidemment, est exacerbée dans la correspondance. Et il m'a semblé que dans cette correspondance, on pouvait trouver une articulation entre une parole du plus intime et une parole publique, une parole collective. Évidemment, c'est vrai uniquement quand il y a une correspondance publiée. Donc, c'était ce passage-là aussi qui m'intéressait et qui peut-être faire penser à une certaine impudeur. Mais disons, chez Griselidis Réal, l'impudeur est d'un tel naturel que ce n'est plus de l'impudeur. Donc, le passage d'une lettre adressée, par exemple, à Jean-Luc Hennig, entre guillemets, en confidence, et puis ensuite le passage à une publication à large échelle, évidemment, ça modifie un peu le statut de la parole et ça interroge, je crois, aujourd'hui de manière tout à fait vivace le rapport de l'intime, du public et du politique. Je pense qu'on n'en aura jamais terminé avec cette question de savoir si l'intime est du politique ou pas. Et Griselle d'Israël pose cette question-là, notamment dans sa correspondance.
Et puis alors, vous avez une image qui décrit bien de ce dont il s'agit et qui fait un lien aussi peut-être avec l'univers de la prostitution, c'est la glace sans teint. Qu'on vous dites qu'on contemple comme ça sa vie à travers cette glace sans teint. C'est aussi peut-être parce qu'elle écrit beaucoup, mais qu'elle attend peu de réponses. Au fond, c'est une correspondance qui est souvent presque à sens unique.
Oui, alors pour rien de vous cacher, j'ai beaucoup hésité à utiliser cette image-là parce que je ne voulais pas que ça suscite l'idée d'un voyeurisme. Oui. Parce qu'il me semble que Griselle d'Israël est totalement, est à mille lieues d'une parole qui susciterait le voyeurisme, justement parce qu'il n'y a pas, il y a pas de forçage, c'est quelque chose qu'elle fait absolument naturellement. Mais il m'a semblé que si on utilisait cette image de la glace sans teint pour l'écriture, c'est-à-dire c'est l'écriture qui donne à voir, c'est l'écriture qui donne à sentir, c'est l'écriture qui nous permet de suivre Griselle d'Israël dans son geste militant, ses amours, ses amitiés, ses embardements. C'est très lié aussi à la temporalité de la lettre. Je pense que c'est quelque chose d'assez important de montrer que cette temporalité, elle est liée à des choses qu'on dit à un certain moment, et puis ensuite il y a l'attente justement d'une réponse qui là, effectivement, vous avez complètement raison, ne vient pas. Mmh. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte une correspondance, en tout cas pour celle avec Jean-Luc Hennig, qui est une correspondance à une voix. Alors évidemment, quand on va dans les archives, on voit que c'est pas totalement vrai. Il y a de la part de Jean-Luc Hennig des relances, comme quelque chose qui indiquerait à Griselle d'Israël que ses lettres sont attendues, c'est-à-dire que ça les inscrit dans un mouvement de désir. Et toute la vie, toute l'œuvre de Griselle d'Israël est inscrite dans un mouvement de désir.
Alors il y a tout ce que ces lettres nous apprennent sur elle, sur sa vision du monde. Et puis, Yann Courtiot, vous me disiez aussi tout à l'heure, hors antenne, que ce qui vous a fasciné dans cette correspondance, c'est tout ce qu'elle dit aussi de l'époque finalement, ou des époques qu'elle traverse.
Oui. Alors, ce sont de simples détails à travers à la fois son premier roman autobiographique, ensuite son journal de prison qu'on a trouvé après sa mort, hein, si je me trompe pas, et qui a été publié par Vertical aussi, et qui est passionnant, hein, d'ailleurs. Ouais. Et puis ensuite, dans sa correspondance, c'est de voir l'apparition des beatniks, qu'on appelle alors maintenant hippies, ça a changé de nom, les punks qui repeignent son appartement, malheureusement en brun, d'ailleurs obligé de tout refaire. Il y a énormément de petits passages, et l'apparition du sida, hein, je trouve que c'est très très intéressant, peut-être pour des générations qui n'ont pas vécu ce moment-là, ouais, de le vivre à travers des mots, alors parfois un petit peu ambigus ou violents, parce que Griselle d'Israël a eu des passages assez étranges là-dessus, mais c'est très très intéressant. C'est pour ça que je pense que c'est une œuvre très complète, hein, finalement, et brillante.
Dont une bonne partie a été publiée de manière posthume, mais pas forcément tout, notamment La Passe imaginaire, qui avait été publiée de son vivant en 1992. Sophie Jossy, ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de mise en scène, malgré tout, de cette correspondance privé qui a été instauré par Griselidis.
Oui, bien sûr. Là, je pense qu'effectivement, faut pas être trop naïf entre guillemets face à ce volume. En fait, elle est dans une correspondance qui existe déjà avec Jean-Luc Hennig. Ils se sont rencontrés autour d'un livre de Jean-Luc Hennig. Jean-Luc Hennig travaillait à l'époque à un livre sur la prostitution masculine. Il rencontre Griselle d'Israël à cette occasion-là. Et puis, elle lui écrit. Ils font des entretiens ensemble, qu'il va d'ailleurs publier. Et puis, petit à petit, c'est lui qui a l'idée. Il lui dit, mais il faut... Ces lettres sont incroyables, il faudrait les publier. Mmh. Et effectivement, ça a pour effet immédiat d'accentuer le rythme des lettres de Griselle d'Israël, qui, se sent probablement désiré, sans sa parole accueillie, et se lance à corps perdu dans cette activité-là. Effectivement, c'est une mise en scène, mais une mise en scène, à mon avis, qu'elle oublie très vite. C'est-à-dire que c'est une mise en scène dans le dispositif, mais ce n'est pas une mise en scène dans l'écriture.
Vous écoutez Quartier Livre à 16h53, c'est le moment de prendre quelques nouvelles du monde du livre avec la complicité de Leila Hassan-Chlonsky.
Cachez ce bouquin que je ne saurais voir. Aux États-Unis, en 2021, on recense un nombre record de tentatives de censure des livres étudiés dans les écoles. Ciblés par les milieux conservateurs, ces romans ou essais sont jugés inappropriés en raison de leur contenu. Contenu qui, sans surprise, concerne généralement des questions raciales ou des thématiques LGBTIQ. L'Association des libraires américains a recensé 729 plaintes et tentatives de censure qui concerneraient au total près de 1600 livres et s'inquiète de ces mouvements très organisés exerçant une grande pression sur les milieux scolaires. Parmi les livres les plus ciblés, on rencontre par exemple le fameux « The Hate You Give »,« La haine qu'on donne » d'Angie Thomas, ou encore un prix Nobel de littérature, Toni Morrison et son « Bluest Eye ». C'est vrai, après tout, un chef-d'œuvre, ça peut changer votre vie. Et ça, my God, c'est bien trop dangereux. Griselidis Réal n'a toujours pas sa rue à Genève, mais Anne Cuneo, elle, a désormais sa plaque. La ville de Lausanne a inauguré cette semaine une plaque célébrant la journaliste, réalisatrice et romancière disparue en 2015. Et ceci dans un lieu qui lui était cher, les abords du café Le Barbare, dans la vieille ville de Lausanne. Le Barbare, café sans alcool, fut pour beaucoup l'endroit où l'on consommait les meilleurs chocolats chauds de la ville. Une plaque à côté du chocolat, oui, c'est cohérent.
Bon.
Enfin, le mot de la semaine, un mot pour mieux connaître le monde du livre et de l'écrit, c'est diariste. Rien de scabreux là-dedans, même si parfois la production des diaristes est abondante. Diariste dérive du latin dies, soit le jour. Là où le diariste, c'est donc celle ou celui qui rend compte de ses jours, autrement dit, l'auteur d'un journal intime. Griselidis Réal, par exemple, a été diariste, et certains de ses écrits ont d'abord existé sous la forme de carnets personnels. Avec les différentes vagues du Covid, on a vu fleurir cet exercice du journal intime ou du journal de confinement, pour le meilleur et pour le pire. C'est ainsi qu'est apparue dans le jargon de la Suisse romande une nouvelle catégorie de diaristes peu inspirée. Le bada diariste. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et voilà les nouvelles du monde littéraire avec Leila Hassan-Chlonsky. La semaine prochaine dans Quartier Livre, Hélène Ichters reçoit Guy Chevalet, auteur d'un dictionnaire insolite de la Suisse qui vient de paraître. Vous connaissez le petit rituel de cette émission. Je vais vous demander de poser une question à Guy Chevalet. Et c'est vous, Sophie Jossi, qui lui adressez une question.
Alors peut-être que j'aurais envie de savoir, est-ce qu'en Suisse, véritablement, il y a des choses et des lieux insolites?
Bonne question, il va nous le prouver, forcément. On a passé cette heure en compagnie de Fabien Dubosson, Sophie Jossi et Jeanne Zouyenne, et on a parlé de Griselidis Réal à l'occasion de la parution d'un numéro de la revue Quarto qui lui est consacré, piloté par vous, Fabien Dubosson, et avec une série d'articles dont le vôtre, Sophie Jossi, consacré à la correspondance de l'autrice. Et puis je rappelle le catalogue raisonné des peintures de Griselidis Réal que vous avez signé, Jeanne Zouyenne, aux éditions Humus. Il est paru en 2016 et vous êtes également employé de l'association Aspasie qui est alors là et tu as été fondée par Griselidis Réal, faut qu'on en dise un petit mot, qui est aussi une source très importante pour la recherche sur Griselidis Réal et sur le thème de la prostitution en particulier.
Absolument, donc elle a été cofondée par Griselidis Réal en 1982, c'est l'association genevoise de soutien et de défense des travailleuses du sexe. Et je pense que c'est vraiment aussi important de parler de l'aspect concret de l'écriture. Il y a évidemment beaucoup de lyrisme et il y a une partie très festive, mais je pense qu'elle aborde aussi des choses extrêmement concrètes, notamment de sa pratique de travailleuse du sexe, mais aussi de sa pratique de militante, de documentaliste. Donc il faut imaginer que Griselidis Réal avait vraiment chez elle tout cet espace. Donc dans le même espace, elle recevait ses clients, ses amis, mais aussi des chercheurs, des chercheuses, des journalistes, des étudiants et étudiantes, à qui elle donnait en fait des documents. On sait qu'elle donnait des documents aussi à ses clients. Et en fait, toute cette documentation existe encore parce que donc à sa mort en 2005, ses quatre enfants ont séparé les fonds plutôt littéraires et artistiques qui ont été déposés à Berne, comme on l'a dit. Et toute la partie militante a été confiée à l'association Aspasie. Et depuis 2019, ces archives, donc depuis 2008, on peut entrer, voir. Et depuis 2019, ça a été archivé par Clio Archive. Et donc, c'est le Centre Griselidis Réal qui est à Genève.
Merci pour ces précisions et grand merci à vous trois d'être venus par Quartier Livre aujourd'hui. Merci à vous également Yann Courtiot, libraire et chroniqueur littéraire. On vous lit régulièrement dans La Couleur des Jours. Avant de reprendre la route, on fait le point de situation.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Lausanne-Genève, un accident provoque des retards d'une demi-heure au moins entre Morges-Ouest et Aubonne en direction de Genève et d'un quart d'heure dans la direction opposée. Sur l'axe du Gothard, on compte 3 km de bouchons entre Vassen et l'entrée nord du tunnel, soit une demi-heure d'attente en direction du Tessin.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Merci à Hélène Ichters, Leila Sanchonski, Sophie Grecuccio et Bastien Arnold qui m'ont aidé à préparer cette émission de Quartier Livre. Rodolphe Beauchois a réalisé l'émission, Antoine Weissenbach l'a diffusée. Dans un instant, La Belle Échappée avec vous, Laurence Bonhomé, bonjour.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, de quoi nous parlez-vous?
Eh bien, nous irons au Canada, on va parler sucrerie puisqu'on va aller dans une entreprise ou dans une cabane qui fabrique du sirop d'érable. Oh, et sur la base de ce sirop d'érable, toutes sortes de petits bonbons et des tas de sortes. Mais c'est aussi un travail artisanal, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la manière de fabriquer qui est historique, ancestrale.
Quelle merveille. On vous écoute donc tout de suite après les
vous
infos.
Vous bavez un peu là, je vois.
J'adore le sirop d'érable, je vous l'avoue. Après les infos de 17h, Laurence, merci beaucoup.
La première vous offre l'heure.
Il est 17h, vous écoutez RTS La Première, voici les informations.